bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale avec donc Leïla qui est de vous.
Bonjour à tous.
Bon anniversaire, ouais. Leïla. Daniel Morin.
Bon anniversaire, Daniel.
Albert Acu.
Bon anniversaire, Leïla.
Frédéric Siglis.
Aïe, joyeux anniversaire, Leïla.
Tom Di Passero sera là tout à l'heure. En live, nous aurons Lou Doyon et notre invité, Sergi Lopez.
Bravo.
Mon cadeau.
Bon anniversaire, Leïla.
On vous a pas dit, mais vous êtes son cadeau d'anniversaire.
Oui. Ouais, mais non, on m'a dit. Juste à l'arrivée, Leïla m'a dit, tu sais, tu es mon cadeau d'anniversaire.
C'est chic.
En quoi j'ai répondu, c'est un gros cadeau.
Ouais. C'est un show cadeau d'anniversaire. Caliente. Sergi Lopez, à l'affiche d'un film qui sortira le 17 juillet prochain. Comme nous prenons nos quartiers d'été à la fin de la semaine, nous avons tenu à vous recevoir, évidemment, avant. Alors, ça s'appelle Le Voyage de Martha.
Oui.
Si je peux me permettre, je préfère le titre original, le titre anglais, que je trouve beaucoup plus dans l'esprit du film, Staff Only.
Staff Only. Bah, très bien. Bah,
non, vous voyez ce que je veux dire? Parce que,
traduction.
Bah, traduction.
Personnel autorisé seulement.
Ouais, c'est ça. Uniquement pour le personnel. Ouais. Personnel autorisé.
Réservé au personnel autorisé, un truc comme ça.
Et comme ça se passe dans un club de vacances, comme il y a entre votre adolescente, votre fille, bientôt majeure d'ailleurs, une tension entre le papa et sa fille, et que elle sympathise avec le membre du personnel de ce club qui se trouve au Sénégal, si j'ai bonne mémoire. Voilà, on comprend la tournure d'esprit où elle finalement s'éloigne un tout petit peu de sa famille, de son cercle habituel, et se rapproche à la fois des locaux, entre guillemets, des Sénégalais. Elle sympathise avec la femme de chambre, elle sympathise avec un cinéaste qui filme, qui fait des vidéos de tous les gentils membres de ce club de vacances, ouais, c'est ça. Enfin bref, il y a une ambiance, et puis surtout, il y a cette comédienne Elena Andrada qui joue tellement bien, ouais, tellement bien, elle est juste, elle est crédible.
Elle va rougir quand tu vas
le
dire.
Non mais c'est vrai, c'est vrai.
Parce qu'elle est, c'est énorme de rencontrer, voilà. Neouche, la réalisatrice, déjà, elle vient du documentaire.
Neouche Balouche,
en catalan on dit Balouche, mais on peut dire Balouche, c'est vachement bien.
D'accord.
C'est très sympa. Aussi.
Pardon.
Tout marche.
Non, mais cette fille joue tellement bien les adolescentes boudeuses.
Alors qu'elle a 47 ans. Hyper forte. Hein.
Bravo
Balouche.
Avec ses regards par moments de papa, tu peux pas comprendre ce qui se passe dans ma vie. Quoi.
Papa aussi, c'est un regard que, tu vois, par contre, moi, pour jouer le rôle, c'était très facile parce que c'est un regard que je connais très bien. Les adolescents qui te regardent, genre papa, tu connais rien du tout à la vie.
Ouais.
Qu'est-ce que t'es con? Voilà. C'est son vrai. Bah, elle est adolescente déjà.
Mais la même fille.
Elle est très grande.
Elle est
plus grande que moi. Mais elle a 18 ans. Elle avait 18 ans.
Elle va voir. Dans le film, elle va avoir.
Elle va avoir 18 ans.
Ouais. Et son anniversaire a lieu pendant les vacances d'ailleurs.
Ouais. Et c'était Staff Only, ce truc de réservé au personnel. Bah, en fait, c'est le voyage de cette femme qui découvre qu'est-ce que c'est d'être une femme déjà, qu'est-ce que c'est d'être une fille aussi, d'avoir un père qu'elle trouve très con. Et qu'est-ce que c'est que je joue moi-même.
Qu'est-ce que vous êtes bon dans le rôle.
Ouais, que c'est aussi.
Et qu'est-ce que c'est d'être une enfant privilégiée avec un père qui peut payer des vacances et aller dans un pays où elle est confrontée à une différence aussi économique de
Exact. Ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est peut-être le fait que c'est assez un style aussi de Neouche, le fait de parler des choses, mais pas jamais d'une façon explicite, mais d'en parler de plein de choses qui sont derrière. Enfin, on se centre beaucoup sur le regard d'elle, sur son expérience à elle.
Et son ressenti.
Mais derrière, on aurait pu tourner ça, on en a parlé avec la réalisatrice, avec Neouche, qu'on aurait pu tourner ça à Poitiers ou à Barcelone, ou je sais pas quoi. Mais le fait d'aller là-bas,
c'est quand même mieux.
Parce que ça fait partie de son expérience. Elle a vécu une expérience traumatique au Sénégal. Elle a juré de jamais revenir au Sénégal parce que justement elle était très déçue de cette manque de communication horizontale.
La réalisatrice. D'accord.
Quand elle avait 17 ans.
D'accord.
Elle s'est dit, je ne veux plus jamais revenir au Sénégal parce que
c'est un peu son histoire, mais arrangée.
Voilà. Voilà. C'est pas autobiographique, mais
il y a une base. Il y a une base. On va en reparler de ce voyage de Martha, donc le film sortant le 17 juillet. Et chaque fois que vous entendrez donc Sergi Lopez dire Ouche, il parle de la réalisatrice qui s'appelle Neouche Balous. Mais c'est vrai que tu le dis très vite et il faut bien comprendre que c'est la réalisatrice Neouche Balous qui a fait ce film. On va parler avec. Ouais, on va commencer. Ouais. On va parler et jouer surtout autour de la vie de Sergi Lopez. Étudiant, il a exercé le métier de dynamiseur socioculturel. C'est quoi en fait?
Il sortait avec des touristes, il leur faisait boire des coups aussi. Il allait boire des coups avec eux, il les sortait.
Exact. Il les ambiançait.
Ouais, des jeunes touristes étrangers, vous les sortiez pour les faire boire en fait.
Voilà.
Voilà. Super job.
C'est un métier ça.
C'est un métier.
Ça s'appelle hôtesse à Radio France.
C'est très dur, c'est très dur. Je l'ai payé.
Ah oui. C'est très dur. C'est très dur.
C'est très dur. C'est un métier très sacrifié. Je me suis sacrifié pendant deux ans de ma vie à sortir des Hollandaises à Barcelone.
Oh, c'est dur.
Non, des Hollandaises, des Italiens, des Français.
Faut souffrir pour être comédien.
À quel moment vous aviez une aventure par soi, franchement?
Comment?
Vous aviez une aventure par soi?
C'était une aventure, ce métier.
Non.
Faites pas semblant de pas comprendre.
Ça se fait tous les soirs, ça.
Non, mais c'est une aventure.
Humaine. Aventure humaine.
Non, c'est vrai que c'était un cadeau comme plus gros que d'aujourd'hui pour Leïla. C'est un cadeau énorme.
La journée n'est pas finie.
Quel est le premier métier de Sergi Lopez, le premier qu'il ait eu en arrivant à Paris?
Barman.
Non.
Il gardait des enfants?
Non. Alors vu le métier, non, surtout pas. Non.
Taxidermiste?
Non.
Ah,
promeneur de chiens?
Non.
Promeneur de vieux?
Vu le métier,
vu le métier.
Non, gérant. Enfin.
Promeneur de vieux, non.
Boucher.
Alors pas loin. Il y a
vendeur de shit.
Entraîneur?
Non.
Entraîneuse.
Non.
Gérant de boutique.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Non, c'est un métier qui est un métier entre guillemets pour se débrouiller pour.
Ils vendaient des trucs au black.
Non.
La drogue.
C'est un métier légal. Alors c'est un métier légal pour essayer de se faire arrondir un peu ses fins de mois. C'est un métier généralement d'étudiant.
Téléconseillante.
Non.
Donner des cours de catalan.
Non.
Démarcheur.
Saurait plus. Mais en tout cas, ce n'est pas avec des enfants.
Démarcheur.
J'ai dit loin de là. Non.
Loin de là. Donc
avec des vieux.
Non plus.
Enfin,
ça se veut artistique.
Il faisait du nu.
Il
faisait du nu.
Exactement.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je faisais de quoi?
Vous avez posé nu. Modèle nu.
Pour des vieux.
Ah bon? Pour des vieux.
C'est ce que Nagui a dit.
Vous avez été modèle nu pour un peintre.
Mais comment? C'est marrant. Oui, c'est vrai.
Ah bah voilà, c'est tout.
C'est vrai, c'était surréaliste.
D'ailleurs, on a le tableau.
Voilà. Mais on ne me reconnaît pas parce qu'on a pris que de descendre de mon structure musculaire, on va dire. En général,
il faisait
des études anatomiques des hommes qui bossent, des ouvriers dans un gros fresque qui doit être aux États-Unis, je ne sais pas où, dans une ville, dans une banque.
D'accord, ok. Donc c'était pas dans un cours de dessin où il y avait des élèves et vous étiez debout, nu au milieu, c'était pour un peintre en particulier?
J'étais nu au début, au milieu, et il y avait plein de peintres.
Ah,
mais ils bossaient tous pour le même peintre. Donc il y avait un chef peintre.
C'est fou ça.
Et puis des petits peintres subordonnés.
C'est incroyable.
Qui faisaient des études anatomiques.
Incroyable, d'accord. Qu'est-ce qui énerve Sergi Lopez? Parce qu'on a l'impression comme ça que rien ne l'énerve et pourtant il y a un truc qui l'énerve.
Quand on lui dit de se rhabiller.
Quand on lui demande s'il a posé nu.
Non.
Le gouvernement espagnol?
Non. On va dire c'est quelque chose, c'est un énervement qui existe depuis une quinzaine d'années, non?
Manuel Valls.
L'écologie, l'environnement, la nature.
Les trottinettes.
Non.
Les téléphones portables.
Exactement, les sonneries de téléphone portable.
Ah,
vous
bon
ne supportez pas les sonneries de téléphone portable.
Ça va.
C'est vrai? Bah, c'est bien. C'est qui Sergi Lopez?
Ça vous énerve?
Oui.
Ouais, pourtant c'est une sonnerie moderne ça.
Non, je sais pas, ça vous énerve quand on est au théâtre, ça vous énerve dans les spectacles, au cinéma?
Je sais pas,
ou...
en général, je sais pas, ça m'énerve quand c'est pas le moment.
Vous dites quoi?
Donc souvent
vous dites il y a trop de moments de rêverie interrompus par les sonneries de téléphone ou les alertes aussi. On sort du rêve.
Ouais. Tu vas tout illustrer là?
Écoute, c'est celle que j'avais sous la main. Quelle réaction a Sergi Lopez quand on lui propose de jouer dans un film de Stephen Frears? Quelle a été sa réaction? On lui dit, il y a Stephen Frears, tu vas jouer avec lui.
Je connais pas.
Exactement.
Ouais.
posé la question en disant c'est qui Stéphane Friant? C'est vrai?
Je connais, maintenant je connais. Hein.
Oui, oui, oui.
Ouais, c'est pas grave.
Non, oui, 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 ben c'est vrai que je.
C'est un peu son métier, quand même.
Je sais pas. C'est un peu honteux, mais c'est une façon de faire.
Ça dépend
de
quand.
Ton handicap.
Ça dépend quand on vous a posé la question, surtout.
Assumer. Oui. Mais c'est surtout que j'ai, très jeune, j'ai compris que soit je me faisais passer pour quelqu'un d'autre, soit j'assumais mes défauts.
Et vous êtes caché, vous dites
voilà,
tout.
Je cache, je dis non, non, je connais pas, je préfère le dire tout de suite que quand vous me demandez. Alors c'est quoi un film de lui?
Très bien. Ouais. Maintenant vous avez découvert le cinéma de Stephen Frears, ça vous aimez ou pas?
Si, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Non, mais je l'avais déjà vu, le cinéma de Stéphane Frears.
Mais
je me rendais pas compte de qui c'était la bête.
Ouais.
Alors, le voyage de Martha, c'est un voyage pas uniquement géographique. C'est, oui, elle est au Sénégal, mais ce voyage, c'est plus le voyage dans la vie, quoi. C'est le moment où elle va s'envoler hors du cocon familial et vers des aventures, vers des amours et vers une autonomie.
Ouais. Disons que quand on, l'idée c'est de Neus.
La réalisatrice.
Bayous,
voilà.
Qu'on va appeler maintenant réalisatrice. poser cette question, c'est l'idée de confronter une jeune femme dans un milieu.
Inconnu.
Ouais, inconnu et différent quand cette idée de marquer la différence avec l'autre, avec cette femme, cette idée de passer une barrière où c'est interdit aux gens qui sont pas strictement personnel officiel.
C'est ça.
De chercher ses limites, en fait. Mmh. De voyager au Sénégal avec un père que tu trouves con et que t'as pas...
Mais comme tous les adolescents ou les adolescents trouvent leur père con ou lourd, peu importe l'expression.
Par définition.
Par définition, on dit, voilà, ouais. Je suis ado maintenant, t'es ringard, tu comprends rien, t'es au milieu. Tu m'empêches de vivre ma vie, quoi.
C'est vrai. Mais là, en plus, c'est plus marqué dans l'idée, on comprend qu'ils se sont pas beaucoup vus les dernières années, donc on peut imaginer... qu'il séparait de sa femme et que ce n'est pas beaucoup
puisqu'il est seul, il est seul avec son fils et sa fille, hein. Et il n'y a pas de présence, il n'y a pas la maman, quoi.
Non, y a
et
pas
donc ils se connaissent pas vraiment, c'est aussi ça, c'est voilà. Non seulement c'est une voilà. Ado avec voilà. Son père et c'est aussi deux étrangers finalement parce qu'elle a grandi avec sa mère et lui est agent de voyage, a une agence et il organise des voyages, donc il profite aussi de ce séjour pour aller se renseigner et elle découvre aussi qui est cet homme qui lui dit de faire des choses ou pas et qui lui fait pas forcément qui respecte pas forcément toujours le contrat.
Oui, c'est difficile. Enfin, il y a pas comme le contrat il est pas signé.
Ouais.
Donc c'est tacite, donc chacun a un peu de marge pour l'inventer. Mais c'est vrai que c'est comme tous les parents. On n'est pas obligé d'être parfait pour avoir quelque chose à apprendre à nos enfants. Heureusement.
Alors c'est un film avec vous, avec Elena Andrada, donc qui est vraiment formidable. Ouais, elle est juste, elle est crédible. Si. Ça fait pas la comédienne qui joue l'adolescente. On a vraiment par moments, comme aussi il y a beaucoup d'images, comme les images volées par le photographe du village ou le caméraman du village. Il y a des images qu'on a l'impression être des images justement faites au portable ou à la caméra de vacances où elle est très naturel, comme si c'était un documentaire et pas un film.
Mais en fait, tu vois, c'est Neus, la réalisatrice, donc elle vient du documentaire, et en fait, quand elle a fait le casting, elle a vu plein de filles en Catalogne, dans des lycées français ou dans des écoles, parce qu'il fallait parler un peu français quand même.
Parce qu'elle joue dans les deux langues.
Et en fait, une des indications qu'elle donnait, c'est de chercher des comédies, des jeunes qui n'avaient jamais joué. Parce qu'elle, tu vois, c'est
avec le risque qu'elle joue mal.
Mais c'est pas forcément. En fait, on joue tous. Tu vois, comme elle vient de commentaire, elle est très douée, Neus, pour mettre en place les gens, pour se camoufler dans un paysage humain. Mm-hmm. Quand on est là, à Hambourg, au Sénégal, à Sali, tout ça, il y a plein de scènes, enfin, toutes les scènes.
Dans la rue, qui sont.
Les gens sont libres dans la rue. Et nous, on va dans un marché aux poissons, et les gens sont là, ils vendent des poissons. Et nous, on essaye
Elle a un peu volé les images de...
Ils sont pas volés parce que les gens voient la caméra, mais au bout d'un moment, ils oublient la caméra et nous lâchent, on essaye de mettre les dialogues qu'on a répétés ou qu'on a appris, plus ou moins, mais de réagir aussi à ce qui se passe là-bas. Donc ça oblige aussi de quelqu'un qui... En fait, ils voulaient aussi quelqu'un qui connaissait pas le Sénégal. Donc, tu vois, l'expérience d'Elena qui faisait ce voyage et de découverte d'un tournage, de toute une équipe, d'un film, de Sénégal, de Mona, de son père, de faux père, son fait. Tout ça, ça, en fait, ça nourrissait un peu.
Ça marche. Ça marche. Elena Andrada, donc, cette révélation. Il y a aussi Diomaye Yengom, Yann Samso, Madeleine Gang et Margie Andujar autour de vous, Sergi Lopez. Est-ce que ce film est présenté comme étant un film espagnol ou comme étant un film français? Parce que les deux langues sont très présentes dans le,
oui,
dans le film.
Oui, comme un film catalan.
Ou catalan, pardon.
Ça y est, attention,
Nagui.
11h19, ça y est, le mot catalan, il a paru.
Mais il faut dire que le vocabulaire catalan, j'ai découvert ça, moi je ne savais pas, est plus proche du français. Par moment, il y a
des mots plus proches, ouais. Et d'autres, oui, plus,
c'est ça.
D'autres très proches en espagnol.
C'est quand on a dit à Manuel Valls qu'il avait perdu en catalan, il a compris comme en français.
Voilà, c'est ça. Mais pour
Valls, qui veut dire valet.
Valet, c'est-à-dire
valet.
Ah, je croyais.
Valet,
pas valet. Et
valet, pas valet. Valet,
un truc qui s'enfonce. Non, valet, c'est un truc qui.
C'est ça, exactement.
Qui s'enfonce.
Mais vous m'avez pas dit alors que ce film se présente comme étant un film mondial ou un film plutôt français ou un film plutôt catalan?
Je crois que au niveau technique, il est 51% catalan et 49% français.
En coproduction.
En coproduction française.
En tout cas, ça marche. Hein. On est à la fois dépaysés, pas totalement perdus. Et puis justement, tous les comédiens jouent avec ces langues. Au Sénégal, il y a de temps en temps du Wolof, mais il y a aussi du français. Et de temps en temps aussi, et c'est crédible, quand vous vous énervez, quand vous parlez avec votre fille, c'est le catalan qui l'emporte, et quand les sujets sont plus posés, de temps en temps, il y a le français qui peut revenir aussi dans la famille. Ouais. Sauf pour le fils. Le fils, lui, il parle jamais français.
Oui. Il parle un peu l'acteur. Mais non, si, c'est, on fait comme dans la vie, enfin, nous, on est très habitués à parler français, mais de penser du catalan à l'espagnol, on passe tout le temps de l'un à l'autre. Et là aussi, on l'a fait d'une façon naturelle. Quand on parle français, on passe de l'un à l'autre.
C'est réussi. Jean-Dominique Messner, ce film qui sort le 17 juillet, c'est un succès annoncé.
Ah, c'est une certitude, mon cher Nagui. Ce film de Neus Balouch. Ce film est superbement bien servi par Sergi Lopez et bien sûr par Elena Andrada, magnifique, sans oublier les acteurs et actrices sénégalais que vous avez cités. Et vous savez, je pense que c'est courageux en pleine pré-saison estivale de démystifier le pseudo-hédonisme des vacances exotiques. Mais ce qui m'a mis sans dessus-dessous en voyant Le Voyage de Martha de Neus Balouch, c'est que ce club de vacances au Sénégal est à l'image de ce qui se passe dans la bande originale. Avec un côté solaire, festif, sans le mojito et les slow, s'il y a des slow, j'aime bien Nagui, c'est sûr, mais aussi un côté obscur de la force. Mais si, dans la bande originale, les invités, ils sont chouchoutés, choyés, café court ou café long, avec ou sans sucre, cristalline à volonté, même qu'on l'achète en pichet maintenant. Et dès que le show commence, Nagui, jamais un mot qui pourrait chiffonner, que des éloges, parfois justifiés, parfois nettement moins. Comme vous-même, vous le reconnaissez, Nagui, à propos de François Berléand, Cadmerade, Jabou Bretman, Pascal Elbé, Kev Adams. Et je n'évoquerai pas JNB, notre aide chef, par exemple, aujourd'hui, derrière la vitre pare-balles là-bas de la régie, il arrive à faire passer pour des sourires les rictus de douleur qui crispent son visage suite au violent coup de pied dans les testicules que vous lui avez balancé, Nagui, quand à 11h05, il vous a appris l'entrée imminente de Sergi Lopez dans le studio. Encore Sergi Lopez, mais il est déjà venu le catalan. Mais, oh, mon seigneur et maître, il revient pour un film sur l'altérité, empreint d'une profonde humanité. Mais rien à cirer de l'altérité, de l'humanité. Moi, je veux de la nouveauté. Fallait inviter Elena Andrada. Mais elle parle surtout espagnol. M'en fous. J'aurais demandé à Guillermo Guise de venir faire la traduction.
Oula.
Mais il parle que le belge. Ok, c'est bon. Fais entrer Sergi et passe-moi sa très vieille fiche. Voilà, cher Sergi Lopez, comment je prépare la BO. Dans la duplicité, les volte-face, les maïguiri, le mépris du catalanisme. Bonne
monsieur.
Émission et bon anniversaire, Leïla.
Merci à vous.
Nagui, la bande originale.
C'est bon le catalan.
Yeke Morricante, c'est vrai que la bande son est très très chargée dans ce film. Kalaju alinuma baba. Am baba malibi fola be walinuma kalaju. Warn them. Tell them. Show them. Est-ce que le fait de jouer justement dans un pays qui n'est pas le sien, entouré avec des repères qui sont totalement différents, ça aide justement, c'est comme un accessoire pour un acteur?
Oui, ça aide surtout que justement, l'idée que Neus, elle a voulu que toute l'équipe soit plonge.
Oui, mais, qu'elle veuille que la fille, que l'adolescente, elle, soit perdue et dans un inconfort comme ça, puisqu'elle est déstabilisée et qu'elle, voilà, et qu'elle elle commence un nouveau voyage vers sa vie de femme et sa vie d'adulte. Mais pour vous qui êtes un professionnel, qui n'avez pas besoin spécialement d'effets extérieurs ou rajoutés pour jouer.
Non, mais je n'ai besoin.
Là, vous êtes là, par exemple, vous êtes capable de jouer le mec heureux d'être ici, alors
exact.
Que vous n'êtes
alors
pas.
Que c'est voilà. Déjà la deuxième fois.
C'est ça, c'est ça. C'est la deuxième fois de trop.
Bah oui, de trop. Et tout ça. Non, pour moi aussi, parce que j'ai aussi, j'avais une espèce d'appel de Neus Ballius, donc pour les autres acteurs sont presque tous amateurs, ils sont pas professionnels, et quand on s'est connu avec Neus, c'était sur le tournage avec Marc Rechau, j'ai joué avec un enfant de 8 ans, et au fait le personnage du père au début dans le scénario, c'était une mère.
C'était ok.
Et en fait, on s'est connus, on a vu comment on travaillait avec Marc, tout ça, et s'est dit, en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse aussi plonger avec eux dans les situations, les aider ou pas les aider.
Et un peu les rassurer parce qu'un professionnel,
ouais,
quoi.
Exact. Ouais. Dire que je peux avoir un contact avec elle, comprendre des choses ou leur filer des informations ou voilà, mais vraiment carrément me plonger avec eux dans les marchés ouais,
D'autant qu'il y a deux, trois scènes aussi qui peuvent vous rappeler ce premier métier où vous aidez certains touristes, certains locaux à boire des verres et à passer des soirées.
Jamais le dernier, quoi.
Voilà, exactement. Le voyage de Martha, le 17 juillet au cinéma Voix. Si Frédéric Sigrist.
Bonjour à tous. Alors c'est l'été, hein, c'est le moment d'exhiber son summer body. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon pote Adrien.
Super.
Merci. À bientôt.
C'est la dernière de la saison. Je fais ce que je veux.
Adrien, parce que c'est toujours. Tu faisais quoi
Adrien, c'est mon coach sportif.
Ah.
Alors oui, vous pouvez rire. J'ai un coach sportif. Hein. Guillermo aurait dit, j'ai un coach diction. Ou Daniel, j'ai un coach relooking. J'aurais ri aussi. Hein. C'est-à-dire que je paye un mec pour me dire des trucs que je tolérerais pas dans la bouche de ma femme. C'est-à-dire, Adrien, il peut me dire il pourrait me dire que j'ai pris du bide, qu'il faudrait que je fasse baisser mon indice de masse corporelle. Je le prends bien. Ma femme, elle me dit que de changer de chemise parce que ça me boudine un peu, direct je fais la gueule.
C'est ça.
Et c'est marrant comment tu prends mieux les saloperies quand tu paies quelqu'un pour les entendre. C'est pour ça qu'on n'aime pas la méchanceté gratuite. Et en fait, pour moi, c'est important parce que, vous savez, j'ai toujours été gros. Hein, j'ai la morphologie d'un entrepôt Amazon, c'est-à-dire je stocke.
Tu as beaucoup maigri, il faut le dire.
Oui, mais à l'époque, je suis grand, je suis humoriste, je suis un homme, je cochais toutes les cases du grand.
Il y a un intrus dans la phrase.
C'est la dernière.
Non mais je veux dire, t'es une femme d'1m60 en surpoids qui fait n'importe quel taf, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Pour les hommes, ça passe bien. Moi, je m'entendais souvent dire, oh mais tu le portes bien, ça te va bien. Et aujourd'hui, même si j'ai perdu du poids dans ma tête, je suis toujours gros. Là, en ce moment, pour moi, c'est comme si on m'avait prêté un corps de location. D'ailleurs, on me dit bien, t'as perdu du poids. Ce qui veut bien dire qu'on me souhaite de le retrouver. Mais oui, mais même à France Inter, ça fait 6 mois que je demande à ce qu'on change ma photo du site. Walou, je sens bien qu'ils sont dans une logique. Ouais, on attend de voir. Ouais. Avant, moi, quand je voulais perdre du poids, j'allais à la salle. Enfin, j'y allais. Disons que je payais un abonnement à la salle. Hein. Je pouvais claquer 300 euros dans une salle de sport. Pour moi, la salle de gym, c'était plus une salle de sport, c'était une ONG. C'est-à-dire que tous les mois, je leur donnais de l'argent, ils me voyaient jamais. Si bien que la dernière fois, quand j'ai voulu me réabonner, c'est le gérant lui-même qui m'a dit « Monsieur Sigrist, vous êtes sûr ?» Vous faites ce que vous voulez, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Vous préférez pas faire construire un puits en Afrique La salle de muscu, c'est un des endroits les plus tristes du monde. Pour moi, une salle de sport, c'est le cimetière du vivre ensemble. Courir sur un tapis roulant, ok, ça améliore ton cardio, mais métaphoriquement parlant, c'est une catastrophe. Courir pendant des heures sans jamais bouger, on dirait la carrière d'un employé du service public. Je me souviens d'un mec qui faisait du vélo en regardant des vidéos de paysages qui défilent. Quand j'ai demandé à un des animateurs c'était quoi le projet, il m'a dit oh bah c'est pour le motiver à pédaler. Mais à ce moment-là, pourquoi pas mettre un faux lion derrière le tapis de course ou balancer des verres d'eau glacée dans la gueule de ceux qui font du rameur? En plus, il y a des miroirs partout. Alors qu'a priori, si tu rentres dans ce genre d'endroit, c'est bien qu'à la base, il y a un truc que t'aimes pas chez toi, t'as pas envie de te voir. Mais non, toutes les 5 minutes, tu te croises dans la glace, le visage en sueur, des auréoles sous les bras, le regard perdu à la recherche du corps que t'avais déjà pas à 20 ans. Et puis, il y a les vestiaires. C'est très gênant les vestiaires des salles de sport quand t'es un homme. Je sais pas comment c'est chez les femmes, mais elle me l'est jamais rentré. Mais chez les hommes, mon Dieu, parce que tu sais, t'es là, t'es sur ton banc de vestiaire, en train de faire tes lacets devant ton petit casier, hein, dans ton jogging. Et on sait tous qu'on a quand même l'air bien con en jogging, hein. Tu mets le pape en jogging, bon, bah, t'as un petit vieux en sortie des pattes, plus une autorité religieuse, hein. Donc t'es là, en train de mettre tes baskets, et soudain, tu redresses la tête, et tu te retrouves nez à cul. Avec le derrière d'un bodybuilder. Et lui, tu sens, ça fait longtemps qu'il vient. Hein, il y vient à la salle. C'est plus un client, c'est un mur porteur. Il est totalement décomplexé niveau nudité. Il a des muscles et c'est pas pour les cacher. Et vu comme il semble génétiquement incapable de mettre un slip, ça se demandait s'il soulève pas des haltères avec sa teub tellement il en est fier.
Enfin.
Et là, moi, sur mon banc, tu redresses la tête et tu fais, non. Je viens pas ici pour avoir moins de complexes, mais pour avoir moins de complexes, pas pour en avoir plus. Donc c'est sur le net que j'ai découvert les vidéos de mon pote Adrien. Adrien, c'est le gars avec lequel, logiquement, j'aurais jamais dû sympathiser. Il vit à Biarritz, il est sportif depuis tout petit, il est beau gosse, il est sympa. Tatoué de la tête aux pieds, on dirait un bûcheron qui s'est mis au yoga. Le mec mange quasiment que des légumes crus, bio et de saison. C'est Nagui, mais avec des muscles. C'est le genre de gars, il est à côté de toi. T'as toujours l'impression d'être une marque repère. Rien à voir avec Daniel, à côté duquel je me sens toujours très sain. Voilà. Et lui, il m'a fait découvrir le CrossFit. Vous connaissez le CrossFit, Nagui ? Alors, j'explique. Le CrossFit, c'est une discipline qui a dû être inventée par un sportif hyperactif avec des tendances bipolaires. C'est-à-dire que tu changes d'exercice toutes les 30 ou 40 secondes sans t'arrêter pendant une demi-heure. C'est comme si le mec qui tenait la télécommande de ton existence décidait de te mettre en avance rapide. C'est un truc de malade. Tu peux en mourir. En général, le mec ou la nana qui donne des cours, s'il fait pas gaffe, à la fin, il part en combustion spontanée. Le jour où tu fais courir des profs de CrossFit dans une roue, t'as résolu notre dépendance aux énergies fossiles, c'est sûr. Et puis les noms des exercices, burpees, squat, sit-up, snatch, c'est pas des mots, c'est le bruit que ton corps fait le lendemain matin. Tu vois, quand tu te réveilles, tu snap. Moi, ça va faire un an que je fais ça, 5 fois par semaine, et là, je vous cache pas, j'ai une patate, je suis prêt à envahir la Pologne, hein, c'est un truc de fou. Et ça fait un an que tout le monde me demande comment j'ai perdu 33 kilos en 5 mois, et ben voilà. Mon secret, c'en est pas un, je voulais lui rendre hommage. C'est un petit tatoué tout musclé du sud-ouest qui s'appelle Adrien.
Merci, Félix. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Nous parlons cinéma aujourd'hui avec Sergi Lopez et ce voyage de Martha qui sortira le 17 juillet au cinéma. Je voulais également vous parler d'une projection. C'est une projection qui a lieu à Paris. Je suis désolé pour nos camarades provinciaux dont je fais partie, dont Leïla fait également partie, dont les trois quarts de cette table fait partie. Mais c'est un film qui dure une demi-heure. Pas plus. Et ce film s'appelle Tellement proche. Il est projeté ce soir au cinéma Beauregard à Paris dans le 6e arrondissement. L'entrée est gratuite. Donc c'est vraiment toujours la même expression dans la limitation des places, mais il me semble qu'il reste encore des places dont vous pourrez profiter. Le film raconte une expérience vécue par 70 élèves israéliens, palestiniens, marocains et français, âgés entre 17 et 21 ans, qui étaient réunis à Paris l'année dernière et qui ont découvert ensemble la France, les institutions et qui s'interrogent sur la rencontre, l'opportunité du vivre ensemble et accepter l'autre ou pas. Et c'est absolument encourageant de voir comment finalement, lorsque les personnes apprennent à se connaître, il n'y a plus aucun problème entre eux. Et lorsqu'ils ne sont pas éduqués dans la simple haine ou l'haine de l'autre, ou la méconnaissance de l'autre. Il y a donc ce film de 26 minutes tellement proche au cinéma Beauregard, et juste derrière, un débat avec Ali Abou Awad, qui est un militant palestinien pour la non-violence, Jean-Marc Lilling, qui est un avocat israélien activiste pour la dignité des peuples, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, et Eli Neshama, qui est directeur de l'école israélienne à Paris. Voilà, je voulais juste tendre, parce qu'on parle beaucoup de tendre la main à l'autre, mais quand il y a des occasions comme ça, et qu'elles sont en plus gratuites et intelligentes et qu'elles font du bien, je voulais en faire la promotion. Voici Lou Doyon qui nous rejoint, qui est déjà installé, la belle est là avec son nouvel album et un extrait en acoustique, ça s'appelle Brother.
Brother, where have you gone? See how serious you ever come. Plan murder and executioner in the name of your absent father was so you climb. Brother, what have you done? Jack and I, man, shooting at your sons. Why so threatened by the trivial? Why so cold and literal? Or sour it seems? can. Yes, we need hope. And give us times, hey, a mystery. Cause we need song. Yes, give us times. We need love and innocence. A breath there against whom these walls. Don't you know that all that rises shall fall? And no bricks shall ever dissuade. See us climb above the barricades. Once in Cairn, hey sister, where are we heading? We're lonelier than ever, just look at us trying. This competition is insane. We're all convinced we're losing the game. Or so I'm told. Cause we need fiction, yes we need hope. Give us tales, hey, a mystery. Cause we need song, yes give us tales. We need love and innocence. Yes we need fiction, yes we need hope. Give us tales, hey, a mystery. Cause we need song, yes, give us times. We need love and innocence.
Brother, il s'agit de Lou Doyon en live et en direct dans cette bande originale avec accompagné au piano par Nicolas Subuchico et Lou Doyon et s'accompagnant elle-même à la guitare avec cette voix qui donne la chair de poule, le frisson. Bienvenue Lou et merci mille fois de venir nous présenter ce nouvel album qui s'appelle Soliloquy. Merci. Comme vous me l'aviez déjà expliqué, comme je vous l'avais déjà demandé, mais on va se répéter tous les deux, sauf que c'était à la télé et à la radio, c'est ça la différence. C'est que le soliloquy en anglais, c'est exactement le même sens qu'en français, c'est-à-dire comme si on se parlait à soi, mais que les autres l'entendaient.
Oui. Oui, c'est une variation du monologue, mais j'aime bien ce que ça implique au théâtre. Et effectivement, au théâtre, ça implique la même intention qui est qu'on se parle à voix haute, mais il y a un public qui entend. Et normalement, contrairement au monologue où il y a quelqu'un qui attend péniblement que vous ayez fini de parler avant d'en placer une, le soliloque, il y a carrément personne pour en placer une.
Là, ici, on appelle ça une question de Nagui.
Mais encore.
Et donc, ça veut donc dire que l'on rentre dans votre cœur, dans votre esprit et dans vos émotions. Vous dites ce que vous pensez tout haut et vous
les
partagez.
Oui, je pense que de toute façon, le travail d'écriture, c'est compliqué de trouver un autre point de départ à part soi-même. Finalement, après, on le planque plus ou moins, on s'inspire plus ou moins d'autres choses. Mais oui, il y a cette idée. En tout cas, ce qui me plaisait, c'était d'arriver à un constat qui est peut-être un constat de trentenaire, mais qui est de se dire que finalement, l'empêchement, c'est soi-même. C'est toutes les histoires qu'on se raconte qui nous empêchent. Et la grande libération, c'est le jour où on se lâche la grappe. Et ça vient seul.
Mais comment faire,
ouais. Ben, c'est un travail à faire seul, vraiment, parce qu'on se rend compte que on a beau dire, c'est les parents, c'est j'en sais rien, c'est la société, c'est l'éducation, c'est
finalement. Pour vous, appelons un chat un chat. Pour vous, la pression aussi était de vivre dans un milieu d'artistes et d'artistes confirmés à tous les niveaux, que ce soit votre papa, votre maman, votre beau-père. Enfin, je veux dire, il y avait
et ça, ça en rajoutait une
couche. Vos frères et sœurs. Non, mais il y a un environnement pour. On parle de papillon avec Burn dans votre album, pour que le papillon se mette à voler de ses propres ailes. Oui, il a fallu un travail sur soi, de confiance peut-être aussi.
Mais c'est assez joyeux. L'agencement plutôt exceptionnel qui m'entoure à la naissance, effectivement, c'est un peu comme une puissance en fait. C'est la même chose, mais un peu plus. Donc c'est vrai que les sentiments sont exacerbés d'une certaine manière. Et il y a cette étrange ambiguïté entre la vie privée et la vie publique, ce qui n'est pas très clair pour le public, c'est pas très clair pour le privé non plus. Et donc, on se balade entre les deux. Donc, c'est vrai que ce qui est surtout heureux, et je pense qu'on est plusieurs artistes à avoir cet agencement, c'est que j'ai grandi aux yeux du public, d'une certaine manière. Donc c'est vrai que normalement, on se fabrique un personnage et puis on arrive une fois que le personnage est prêt. Moi, j'ai une suite d'interviews absolument affligeantes dès l'âge de 14 ans, où je suis passée par toutes les phases et elles ont toutes été gravées,
oui,
quelque
part. Ça veut dire qu'on fait partie, enfin, vous faites partie de notre famille sans le vouloir.
Oui.
Et qu'on a envie d'être, on a envie d'être pote avec vous, avec Charlotte, avec, comme on l'était avec Serge ou avec Jane. On se dit, mais voilà, on vous a vu grandir, on vous a vu prendre en maturité, en assurance aussi. Et j'imagine que ça doit être extrêmement désagréable parce qu'en effet, cette frontière entre le privé et le public est indéfinissable et que tout le monde n'est pas forcément adroit en s'immisçant. Peut-être vous êtes à une table avec en train de discuter, et on va se permettre de venir vous parler, vous interrompre.
Vous faites partie du paysage, il y a un truc familier.
Et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement touchant parce que voilà, parce qu'on vous suit et parce qu'on vous aime.
Je pense que ce qui est joyeux, en tout cas ce que j'arrive à ce que je veux bien endosser d'une manière, c'est d'être un exemple qu'on peut se réaliser tard, que tout est en mouvement, qu'on ne fait qu'apprendre et que finalement.
Et que ça dépend de soi.
Ça dépend de soi et que dans une société où effectivement on est assez obsédé par le résultat plus que tout ce qui vient avant, pendant et surtout après, parce que c'est ça qui est intéressant. Au moins on a vu avec moi les vagues, les hauts et les bas, et la musique que je fais, de toute façon, c'est une musique pleine de relief parce que j'adore ça. Et ce que je regrette des fois quand je vois les carrières des anciens, c'est qu'on leur a laissé la chance de se péter la gueule souvent. Et de remonter souvent. Et je me demande si aujourd'hui, quelqu'un pourra avoir une carrière qui chute à ce point-là et qui remonte. Quand on voit Johnny, c'est ce qui est surtout merveilleux, c'est de voir à quel point...
Il a eu plein de traversées du désert, il ne faut pas les oublier. Vous
avez raison. C'est ça qu'on chante, c'est ça qu'on fait, finalement.
Y compris Serge Gainsbourg.
Tout le monde.
Aujourd'hui, il y a des albums, on dit c'est culte.
Bien
et c'est
sûr.
Vrai que c'est culte. Et heureusement qu'on se rend compte que c'était magique et formidable. Mais le succès, au moment où l'album sortait,
sur
commercial,
le moment, y avait rien.
C'était pas ça non
bien
plus.
Sûr,
ouais, absolument,
bien
ouais.
sûr. Wow. Donc c'est bien. Oui, ça donne envie de laisser un peu de temps aux gens.
Alors parlons de cette musique. Burn, c'est ça, c'est le papillon.
Oui. Ouais.
Racontez-nous.
Bah c'est l'idée effectivement que oui qu'il y a des gens qui sont attirés par une forme de danger, ce qui est normal. On a envie de voir ce qui s'y passe et qu'effectivement la pire connerie c'est de dire n'y va pas. Voilà, si quelqu'un vous dit n'y va pas, 9 chances sur 10, avec mon caractère, on y va tout de suite. Ça devient une obsession. Donc effectivement.
Et donc comme le papillon se brûlait les ailes en s'approchant trop du danger qu'on avait annoncé, quel que soit ce danger.
Oui, oui, d'être attiré toujours par quelque chose qui. Oui, après je pense que les artistes aussi, on est peut-être un peu on est des vampires d'émotions et au bout d'un moment on a besoin d'émotions de plus en plus fortes ou des choses de plus en plus. C'est terrible, mais c'est comme ça.
Faut s'alimenter quoi.
Ouais. On va passer des vampires aux mantes religieuses.
Si on y become a child again.
Le nombre de filles qui vont être d'accord avec vous et qui vont vouloir être à votre place, alors racontez ce que vos copines et vous décidez un jour.
C'était sur la chanson Widows, c'était j'ai eu une idée, parce que de toute façon ce qui est bien quand on écrit c'est que on part d'une base, mais après on invente tout et on dramatise évidemment ou on hystérise un peu. En tout cas, c'est mon cas. Et c'est vrai que là, je m'imaginais un enterrement d'un type, parce que je suis sûre que c'est arrivé assez souvent, et où à son enterrement,
widows veut dire veuve en anglais,
les veuves, et qu'à l'enterrement, il y a une gonzesse et puis il y en a deux et trois et quatre et cinq, et en fait elles ont toutes vécu la même histoire avec le même type et elles s'en rendent compte à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y en a, il y en a plusieurs et qui ont vécu la même histoire, parce qu'il y a des sociopathes qui aiment bien revivre la même histoire éternellement avec plein de gonzesses différentes. Donc là, il est chopé en flagrant délit d'une manière ou d'une autre et elles viennent le découper pour récupérer ce qu'elle lui avait filé.
Ouais. C'est ça.
Récupérer un bout de leur cœur dans tout ça. Alors évidemment, c'est de l'ordre de la métaphore. Il ne s'est rien passé à Vincennes ou alors dans les. Je regarde beaucoup, faites entrer l'accusé, mais non, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps. C'est juste dans ma tête. Mais j'aimais l'idée d'une chanson païenne pour les filles et d'avoir une exaltation de se dire que nous aussi, on peut manger les gens.
C'est génial. La sororité, tu sais.
No, I never see you coming, but by the time we
starts out, can you disappear?
Ça, c'est la drague, c'est
ouais.
Quoi?
Flirt, bah, c'était l'idée. Moi, j'aime bien trouver un sujet qui m'agace, et très souvent, ce qui m'agace peut se retourner contre moi assez facilement. Donc, à la base, on écrit une chanson en se disant c'est sur tous ces gens qui sont des sortes de piliers de bar et de drague, qui draguent un peu tout ce qui passe.
Sergi, on parle encore de vous, Sergi. C'est incroyable, même dans l'album, on parle de vous.
Je me disais, mais c'est terrible cette. Et surtout de me rendre compte que finalement c'est très agréable le flirt, parce que je me suis rendu compte que si ça se trouve c'était une chanson contre moi, en fait j'aime bien flirter. Et c'est vrai que ce qui est terrible, c'est qu'on s'en fout assez de la personne qui est en face. Ce qui est excitant, c'est de voir si ça marche.
Oui,
et c'est terrible.
Ça s'appelle la séduction.
Oui. C'est-à-dire, et en fait, dès que ça marche et qu'on voit la personne qui tombe, hop, on peut prendre un taxi et se barrer, parce que finalement, hop, on avait juste besoin de savoir ça.
Ou passer à la prochaine personne.
Ce qui est terrible. Voilà. Et donc la chanson était normalement assez contre. Et puis au fur et à mesure, j'ai rigolé. Je pense que je me la suis écrite pour me dégommer un peu la tronche. Elle est contre les flirts dont je fais partie.
Il y a aussi ce titre, The Joke. Non, c'est un très 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 bon album. Et puis surtout, il y a cette voix qui est totalement dingue, qui on sent qu'elle est chargée d'émotions, qu'il y a justement des vécus dans tous les sens du terme, dans les bonnes nouvelles, les flirts, les histoires d'amour, les moins bonnes nouvelles, ce que la vie vous a apporté pour vous pousser finalement à voler de vos propres ailes, ce qui est extraordinairement bien réussi. Mais c'est une voix qui est très rock, pas rock, mais rock. Voilà, elle a un groove, et on va s'en rendre compte tout à l'heure quand vous allez reprendre Wicked Game de Chris Isaak. Elle vous va extrêmement bien aussi, cette reprise. Je voulais juste avant de vous laisser voler de vos propres ailes, cher Papillon, rappeler que vous serez en concert le 11 juillet prochain à Aix-les-Bains, le 13 juillet à Montigny-les-Monts, le 20 juillet à Bourg-en-Bresse, le 25 juillet à Carcassonne. Vous allez vous régaler là-bas tellement le public est accueillant. Le 9 août à Châtex, le 29 août à Bulle, le 31 octobre à Is et le 30 novembre à Lieu-Saint. C'est la fin d'une tournée qui est passée également par l'Olympia. Il y a eu beaucoup d'autres dates avant. Il y a un documentaire aussi dont je voulais que nous parlions, qui s'appelle « Oh les filles ». C'est François Armanet qui en est le réalisateur. Et justement, il a eu la bonne idée d'aller à la rencontre de plusieurs artistes, dont Jeanne Haddad ou Brigitte Fontaine, Charlotte Gainsbourg, votre sœur, Françoise Hardy, Imani, Camilla Jordana, Ali Medeiros. Enfin, il y a du monde. Et l'idée de raconter le parcours, et justement vous expliquez comment vous avez eu à trouver votre voix au milieu de ce monde artistique, et que vous êtes abrité derrière l'anglais aussi, qui était assez pratique, parce qu'on pouvait peut-être dire plus, vous pouviez peut-être dire plus en anglais qu'en français.
L'anglais me plaît beaucoup pour cette raison-là, et aussi pour cette et je pense que c'est un des sujets du documentaire qui me plaît beaucoup, c'est que les filles qui font du rock, je dirais que c'est, et on le voit dans le documentaire, c'est émouvant. Presque toutes ont un problème avec l'idée du genre. On s'en fout totalement. Et je pense que quand on fait du rock, c'est en partie pour se libérer de ce qui est féminin ou masculin. C'est un bordel de mélange des deux. Les plus grands chanteurs rock sont des gonzesses. Les plus grandes chanteuses rock sont des types. Enfin, c'est-à-dire que c'est compliqué de voir le niveau de féminité chez Bowie. Il est aussi grand que le niveau de masculinité chez Patti Smith. Donc finalement, je pense que ce qui est beau dans ce doc, c'est qu'on voit que le point commun, c'est celui-là. Et le bonheur, pour moi, de l'anglais, c'est qu'il n'y a pas de genre en anglais. Donc je peux reprendre n'importe quelle chanson en anglais. Et on ne saura jamais si je parle d'un garçon ou d'une fille. Et encore plus précisément, ce qui est vraiment, ce qui moi me plaît beaucoup, c'est que les chansons d'amour dans le rock ou dans le blues sont des chansons cachées finalement. Moi je vois, il y a plein de chansons, on pense que c'est des chansons d'amour et c'est des règlements de compte en interne, et qui sont absolument pas des chansons d'amour. Et j'ai vu un documentaire assez merveilleux où sur le blues, on voit que la base du blues, donc tous ceux qui chantaient dans les champs de coton, toutes les chansons sur des filles, c'est en fait contre le patron. Mais il pouvait pas le dire.
Donc toutes les chansons disant
baby is a nightmare, etc. Baby, ça peut être ce qu'on veut, ça peut être votre père, votre mère, le voisin. Enfin, il y a un flou qui me plaît beaucoup en anglais, et notamment dans le rock. Et c'est vrai que j'étais très contente de participer à ce documentaire, parce qu'il y a, chaque fille a une énergie, a une passion. Elles sont toutes très singulières. Ça fait un bien dingue. Il y a des perles, donc effectivement, Françoise Hardy, Vanessa Paradis.
On va rappeler que vous êtes auteur, compositeur, interprète, ce qui n'est pas non plus le cas de toutes celles qui sont présentes dans le documentaire. Justement, Charlotte Gainsbourg apporte son témoignage dans ce documentaire où elle dit que vous n'avez besoin de personne pour écrire des textes, alors que Jane Birkin et elle sont plus fragiles parce que dépendantes, justement, de ce processus de création. Ce qui est une belle manière de vous rendre hommage
aussi.
Oui,
ça m'a fait très plaisir, mais c'est vrai que ça s'est vraiment joué quand j'étais petite, la claque, et je suis toute petite, je dois avoir 4-5 ans, et c'est vraiment le premier souvenir, c'est Catherine Ringer. Et la fois où je vois Catherine Ringer à la télévision, il faut comprendre que je viens d'une famille de femmes extrêmement fortes, singulières, drôles, plein de choses, mais c'est des femmes qui, surtout dans la musique, ont été au service des hommes. Et donc, je connaissais que ça. Et le jour où je vois Catherine Ringer à la télévision, je me dis, ah, moi je veux être comme elle. J'ai tout de suite vu dans sa tête que non seulement il n'y avait personne qui lui disait quoi faire, mais que si ça se trouve, celle qui disait à tous les gens autour, comment on allait la faire cette chanson. Et donc, effectivement, j'étais tellement contente de voir des bouts d'elle dans le documentaire. Brigitte Fontaine, pareil. Enfin, c'est des gens qui m'ont fait rêver parce qu'elle... Mon Dieu, ce qui se passe dans le regard. Et tout, on voit quand Élie Medeiros danse et qu'elle fait... Elle, c'est à eux, c'est leur terrain de jeu. Et moi, j'ai la chance que c'est enfin mon cas aussi, que sur scène, c'est chez moi et je peux... casser la gueule de n'importe qui sur ma scène. Le ça reste du temps, je suis très docile.
Alors, le documentaire s'appelle Oh les filles, signé François Armanet. Ça sera au cinéma le 3 juillet. Et l'album de Lou Doyon s'appelle Soliloquy. Mais Cat Power également présente sur cet album. On vous accueille dans quelques minutes pour la reprise du quiz avec. Merci beaucoup.
Merci. En tout cas, Lou Doyon. La bande originale,
Nagui, sur France Inter. Parlons de la musique justement dans la vie aussi de Sergi Lopez. On va commencer en 1986, au moment où vous décidez de devenir comédien. À ce moment-là, vous écoutiez, je ne sais pas si on dit Cahier Bétis.
Comment je prononce? Cahier Bétis.
Cahier Bétis, c'est ça. Ça joue grave, la basse. Le musicien, le bassiste, il joue grave. Patanegra, c'est ça l'artiste? Ça joue, hein?
Mais en fait, c'est le couple, il y a un des frères qui est mort, mais c'est Raimundo Amador, San Gitan, qui a jamais fait la musique, mais qui joue la guitare comme un dieu, qui a rencontré B.B. King, qui lui dit, mais come on here, qu'est-ce que tu fais là? Et qui a joué avec lui pendant beaucoup d'années. Tout ça. Et là, c'est les deux frères... Amador, voilà. Après, ouais.
Et cette musique vous évoque quoi alors? Vous l'entendez? Vous voyez quoi comme image?
Je vois ma chambre de bonne à la rue Château d'Eau, au sixième étage, dans une escalier comme ça. Voilà, je vois ça, c'est 6 mètres carrés ou 5 mètres carrés où il y avait qu'un lit,
étagier. Ça c'est quand vous décidez de venir à Paris, mais si on rembobine un tout petit peu, 86, vous venez de tripler votre terminal, votre père est désespéré.
86,
ouais. Et vous lui dites un soir, je vais faire du théâtre.
Oui, mais je lui dis ça pour sauver ma gueule. Enfin, je veux dire, parce que mon père, il s'exprimait d'une façon très expressive dans la... Dans la colère. et voilà, quand je l'ai rencontré, j'ai vu qu'il était réveillé alors qu'il se réveillait à 5 heures du matin pour aller à l'usine. Et qu'à 1 heure du matin, il était réveillé, il m'attendait. Je me dis, attends une seconde parce que j'ai pris une décision, je vais faire du théâtre. Et ça l'a un peu stoppé comme ça.
Et pardon, et de manière très expressif d'exprimer sa colère, ça veut dire qu'il levait souvent la main sur vous?
Souvent. Non, il avait un caractère qui le débordait avec moi et avec mon frère, pas avec ma mère, jamais avec son mère, mais avec les êtres humains en général. C'était un mec qui, quand il avait un coup de colère, il perdait il disait papa, mais arrête, il pouvait, tu vois.
Devenir fou. En 2001, vous écoutiez Dalida.
Il venait d'avoir 18 ans.
C'est génial.
Il était beau comme un enfant.
Tout ça pour saluer en 2001 un événement.
C'est la première fois en 2001, pardon, vous recevez un César du meilleur acteur en France, et vous êtes le premier acteur étranger à recevoir cette distinction pour le film Harry, un ami qui vous veut du bien. C'était une grosse surprise ou vous sentiez que les vents étaient en votre faveur à cette époque-là pour cette récompense, pour ce César?
Non, je n'étais pas conscient, je ne savais pas ce qui se passait très bien. C'est comme... Non, je ne me rendais pas compte.
Ça a changé quelque chose dans votre vie quand même, ce César?
Je crois. Non, je crois pas. Enfin, je sais pas, c'est marrant. Moi, j'ai
il faut plus... le rendre alors si ça sert à rien.
Ouais, mais...
Non, mais vous
il y
avez...
en a d'autres qui attendent. Hein.
Servi, non. Vous avez été adopté tout d'un coup par la France. Il y a un vrai phénomène qui a eu lieu à cette époque.
Mais c'est à cause du César ? Je sais pas, peut-être
non,
oui.
Non, du film.
Peut-être oui. Mais tu vois, moi, j'ai plus senti la différence avec le western quand on est allé à Cannes, que d'un coup, je réalisais que j'étais acteur de cinéma, tout ça, qu'avec le César, peut-être oui, peut-être oui, peut-être plus dans le milieu de cinéma.
Le film de Manuel Poirier, oui, western. On va continuer évidemment de parler avec Sergi Lopez et d'évoquer Le Voyage de Martha, film qui sortira le 17 juillet prochain. Mais comme promis, voici la reprise de Wicked Game par Lou Doyon en live dans la bande originale.
This girl is only
Nous allions avec cette reprise de cuisse à Jacques. Et un petit clin d'œil à David Bowie, j'ai l'impression, dans la mélodie. Ah, tu mourras pas là-dessus. Merci, on la retrouvera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Bonjour Tanguy Pastureau.
Bonjour Nagui.
Bonjour Tanguy. Vous allez nous parler aujourd'hui, oui, de la sexualité.
Oui, parce que c'est la saison, on est tous très chauds. Hein, même Albert Algou, qui en a vu en 40 ans de carrière des soirées hautes avec des stars de la télé à poil sous Exta, a l'œil qui frise. Et il y a un truc qui intrigue toute la France, la sexualité de Macron. Bernard de la Villardière, journaliste à la BAC du 93, a carrément posé la question en direct à la radio.
Soyez bienvenus avec donc Leïla Gadeboudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Leïla.
Frédéric Sinis.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure.
Bon, c'est gentil.
Nous doyons et notre invité en live et pour vous parler cinéma, Sergi Lopez.
Bravo. Bravo.
Et ce film donc initiatique, Le Voyage de Martha, film qui a été tourné quand d'ailleurs? Parce que vous, oui, c'est au Sénégal, on se dit, il fait toujours beau, c'est toujours l'été au Sénégal, mais c'était il y a longtemps?
C'était au mois d'avril, pas l'avril dernier, mais l'autre.
Avec des... Ah oui, donc il y a plus d'un an?
Ouais.
Ah oui, mais pourquoi ça met autant de temps alors?
Bah, je sais pas, parce que c'est comme ça, parce que il faut le monter après en fonction de comment si tu essayes d'aller à Cannes, tu essayes après
pour le présenter
Denis,
à... d'accord,
et après donc ça prend du temps.
Ouais. Très bien, cette histoire humaine autour de cette jeune Martha, extrêmement bien interprétée par Elena Andrada, qui n'a jamais été comédienne avant et qui a été repérée par cette documentariste qui est Neouche Balouche.
Ouais, c'est une nana qui faisait la danse.
Oh, tu l'as bien
Neouche
dit.
Neouche Balouche, tu l'as dit très bien.
J'ai appris que moins tu articulais, moins tu prononçais, plus ça faisait.
On aura dit Garcimore.
C'était
génial.
Tu parles bien le catalan en plus. Moins tu articules, mieux tu parles le catalan.
C'est ça. Totalement pour moi. Oui, donc elle n'a jamais été actrice. Elle joue extra. Elle est juste. On est d'accord. Je ne sais pas comment expliquer ça à vous. Vous êtes un professionnel. Moi, je le ressens comme un spectateur. Dans la salle, on voit cette fille. On croit tout de suite au personnage.
Ouais, folle.
C'est ça.
Elle a une naturelle incroyable. Ouais.
Ben, c'est une façon de... Je crois que c'est une super école. Moi, j'ai eu la chance de commencer aussi avec Manuel Poirier, ouais, avec quelqu'un qui ne cherchait pas des acteurs pour construire un personnage qui est très loin de soi, mais ouais, des gens, des personnes qui dégagent quelque chose. Donc, pour elle, c'était une super école de rentrer dans une fiction. Mais en fait, d'accepter qu'il y a une partie comme de documentaire, c'est-à-dire que tout ce que tu es en train de vivre, ça fait partie du truc. Donc du coup, tu ne peux pas jouer ou fabriquer des choses, mais les émotions, il faut qu'elles arrivent, il faut que tu sois dedans.
Ça veut dire qu'il faut prendre la situation, tourner la scène dans un moment de vie et pas répéter, pas faire des lectures, pas faire plusieurs prises d'une même scène pour rester le plus proche de la vérité?
Si, non, on a fait beaucoup de prises en fait, parce que c'était sa première fiction. Neus, elle avait peur de ne pas avoir assez de matériel. D'accord. Elle a tourné beaucoup. FC au montage.
C'est pour ça qu'elle a mis un an et demi à monter.
Ouais, exact, c'est possible. Elle avait beaucoup de prises, mais après dans le montage, elle s'est recentrée beaucoup sur elle. En fait, il y a même des scènes où on parle à deux, à trois, mais on voit pas notre dialogue, mais on voit sa réaction à elle.
Exactement.
Tout le temps.
Il y a même des moments où vous êtes en arrière-plan, vous. Qui est la vedette du film, et c'est elle qui est au premier plan, et c'est vrai que ces silences ont autant de poids que les regards qu'elle vous envoie de haine ou de bouderie, ouais, de bonne adolescente qui en a marre de son papa.
C'est souvent
tellement
comme ça.
Crédible cette situation.
Ouais, il y a de la haine, mais il y a beaucoup d'amour aussi, parce qu'on ne peut pas dévoiler la fin du film, et là, Sergi, il est magnifique, il est très très émouvant. Aussi. C'est pas un père, c'est pas un bourrin.
Non, c'est même.
Apparemment,
c'est...
il pourrait l'être au départ.
Tu as raison. Ça part mal quand même.
Voilà. Mais sans... Ça part mal, mais.
En tout cas, ça peut rassurer beaucoup de parents, de se dire aussi que c'est d'abord un passage obligé et que même nous, on est tous passés par là en tant qu'adolescents, c'est-à-dire d'en avoir marre de vouloir tuer nos parents et de se dire on n'a plus besoin d'eux, on est grand, on est adulte, on est mûr, et puis de se rendre compte bien après qu'il y a, comme le dit Albert, une formidable histoire d'amour aussi entre les enfants et lui.
La clé de la vie et de tout, non? Finalement, s'il y a de l'amour, c'est ça qui compte aussi, mais de découvrir que ton père, il n'est peut-être pas super non plus, mais il est pas peut-être un pas peu parfait. Moins con de ce qu'on croyait.
C'est ça. Ouais. Ouais, de ce, on peut se dire ça aussi sur soi quand on est ses parents.
On essaie de se le dire tout le temps.
En tout cas, non, mais c'est vrai que c'est la force de ce film, c'est qu'il est très humain, très très vrai, crédible, bien joué. Et voilà, il se prend, ça prend pas la tête, mais on est, ça donne aussi à réfléchir sur les rapports qu'il peut y avoir au sein d'une famille ou aussi dans la place d'une adolescente. Et l'écoute aussi, parce qu'il est quand même intelligent ce, ce père. Il est observateur et il prête l'oreille, il prête le regard et il passe pas non plus à côté des signaux qu'elle envoie.
Ouais. C'est aussi un père comme tous, je crois, qui essaie, mais qui a aussi des doutes, qui a une certaine culpabilité, j'imagine, de ne pas savoir occuper de sa fille, tout ça.
C'est
donc,
ça.
On a toujours les doutes. Moi, j'ai des enfants de 23, de 21, là, ça va mieux, mais, je veux dire, mais c'est vrai que tu te poses tout le temps la question
est-ce que
tu aurais pu faire ça d'une autre façon? Donc, tu vois, c'est jamais quelqu'un qui a raison ou pas raison, finalement, c'est un dialogue.
Oh, la vraie question, quand on se pose la question, quand on est maman ou papa et qu'on se dit, quand j'avais son âge ou à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce qui serait passé? Là, ça, on trouve vite des réponses. Hein.
On trouve vite un espace commun. voir mieux de son côté.
C'est ça. C'est ça. Voici Tanguy Passion. Il semblerait donc, Tanguy, que la sexualité de notre président Emmanuel Macron intrigue.
Oui, parce qu'il est pas mal gaulé, le loulou. Hein. C'est le premier président qu'on aime à imaginer nu, le sexe seulement masqué par une photo sous cadre de Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Les autres chefs d'État, ça faisait pas ça. Quand on voyait Pompidou, on n'étreignait pas son édredon la nuit en imaginant que c'était lui et en murmurant « Prends-moi, Georges ». Pourtant, Macron ne fait rien pour exciter la foule. Pas une soirée reggaeton où il serait mis à se frotter contre une barre en s'humectant les lèvres. Et quand il entend Barry White, il dit « Je m'en fous ». Parce qu'il semble avoir le même intérêt pour le sexe qu'un dauphin qui, au Maryland d'Antibes, se serait émasculé en retombant mal sur le cerceau. Et pourtant, depuis qu'il est élu, les trois quarts du pays sont en plein fantasme. Tous, on a un oncle qui, un soir ou une après-midi, s'il a commencé à boire très tôt, nous a dit « Je suis sûr que Macron est gay ». Moi, au début, j'ai essayé de comprendre. J'ai dit « Tonton, déjà pose ce verre, celui-là aussi. Bon, donne-moi la bouteille. Et pourquoi Macron serait gay ?» Parce que le même oncle, en 84, quand il voyait à la télé Michou, s'exclamait « Ah, ça, c'est un mec, regarde, il se tape Dalida !» Alors que l'autre était à côté de Jean Bertrand, transformiste déguisé en Dalida. Donc c'est pas une machine à repérer l'homosexualité. Et là, mon oncle, comme le vôtre, a une explication, l'âge de Brigitte. Parce que 25 ans d'écart dans ce sens-là, c'est pas possible. Vincent Cassel, qui a 30 piges de plus que sa femme, tout le monde lui dit « Yes papa, t'es un winner, ton bassin c'est du titane, mon pote !» Et l'autre se retrouve comme un couillon à se taper les devoirs de maths de la ptiote. Mais Manu, 40 ans, avec Brigitte, 65, on n'accepte pas. Ce couple, on entend ça partout, serait donc un alibi pour que Macron parallèlement s'éclate avec des mecs en soirée mousse à cheval sur des licornes gonflables. Alors qu'ils ont l'air amoureux. Hein, quand ils causent, elle le regarde comme le vegan regarde le steak de soja. En interview sur RTL l'autre soir avec Fogiel, ce monsieur qui vient de signer sur BFM Alain Duhamel, ce qui est un vrai pari en période de canicule. Brigitte a quand même comparé Macron à Atlas. Pas le magasin qui vend des poufs. Hein. Le dieu grec. Magnifique idée pour arrêter la rumeur d'homosexualité. Comparer son homme à un grec musclé et à poil. Il y en a là-dedans. Hein, un jour, ce sera étudié dans les écoles de communication, le cours intitulé « Tout ce qu'il ne faut pas faire ». Hein, c'est comme si à l'époque, DSK avait dit « Ouais, non, mais j'ai glissé, on se méfie jamais assez du carrelage humide de la salle d'eau. Heureusement, des employés sont là pour qu'on puisse se rattraper. » Et tiens, vous connaissez Bernard de la Villardière, hein, ce monsieur qui, sur M6 Dimanche, a quand même fait une émission intitulée « Nudisme et folie sexuelle, enquête sur les nuits chaudes de Key West en Floride ». Hein, même à Kaboul, il vous trouve une soirée libertine. Hein, vous lui faites renifler un string, il vous guide jusqu'au Blue Moon d'Alep. Bon, enfin, du journalisme sympa, quoi. Hein. Sympa, parce que, pardon, mais c'est pas en lisant Libération qu'on peut se masturber. Ou alors, il faut être vraiment de gauche. Eh bien, Bernard de la Villardière, il y a 2-3 jours, était invité sur Voltage, une radio dance pour les jeunes qui groovent leur body, donc pas Gérard Collomb. Il est interrogé par Jordan Deluxe, hein, le seul animateur qui porte le nom d'un menu best-of. Il a failli s'appeler Kevin Filet-O-Fish. Deluxe.
Ok. Non, mais l'été arrive, ça va. Et donc là, cet animateur pose une question à Bernard de la Villardière.
Mais oui, il lui dit si vous deviez demander à Macron un truc, ce serait quoi? Bon, déjà, il faudrait que Macron soit dans un bordel à Rio en train de se shooter au crack avec des djihadistes pour qu'il croise Villardière. Hein. Et là, l'autre répond, je lui demanderais quelle est sa sexualité. Or, on la connaît, sa sexualité. On l'a vu faire du vélo au Touquet avec Brigitte. Si tu n'es pas amoureux fou, tu ne fais pas de vélo avec la personne parce que c'est
chiants. Hein, dans le Tour de France, ils sont tous redingues les uns des autres. C'est pour ça qu'ils dandinent du huc alors qu'ils savent que le peloton à l'arrière les mate, c'est pervers. Mais Villardière doute et il ajoute « La sexualité est importante dans le travail puisqu'elle détermine la façon de prendre des décisions. » Ah bon, hein, donc si Macron était gay, mais que se passerait-il? Au lieu de serrer la main de Trump, il lui ferait un gros bisou en lui soufflant à l'oreille « J'ai envie de faire l'amour dans de la paille, donc dans tes cheveux. » Et l'autre se dirait « Je me suis trompé, j'adore ce mec, amazing !» Theresa May viendrait se confier sur sa fin de carrière en disant à Macron des banalités comme « Toi, au moins, t'es sensible, t'es à l'écoute, pas comme ces fucking députistes qui m'ont fait recommencer mes devoirs 30 fois. » Mais c'est quoi cette obsession pour la sexualité des uns et des autres? Ce n'est rien, la sexualité. C'est un truc qui dure 20 ans, 5 de plus s'il y a Viagra, et qui s'éteint comme une lampe de poche, mais en plus mou. Nous ne sommes donc pas définis par notre sexualité. Tout ce qu'on attend de Macron, c'est qu'il soit bon un jour. Donc soyons plus attentifs à ce qu'il a derrière la tête. Qu'est-ce qui se passe sous sa ceinture?
Bravo!
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Voilà qui est fait. Le voyage de Martha, justement, il est question de sexualité, puisque elle s'éveille, cette sexualité, chez cette adolescente. Et puis il y a aussi la complicité avec son frère. Déjà une vraie complicité parce que promiscuité, ils vivent ensemble dans la même chambre d'hôtel. On voit bien que il y a une complicité, mais il est un peu aussi le boulet au milieu dans les jambes de sa sœur. Et il pose lui toutes les questions. Il est direct. Hein, ouais. Avec qui tu sors, avec qui tu couches, qu'est-ce que t'as fait, tu l'as embrassé, tu l'as pas embrassé. Ouais. Enfin voilà.
Mais c'est drôle le fait de, comme dit souvent, quand la mise en scène commence par le casting, le fait de choisir Yann pour faire, tu vois, quand à l'écriture il y a une sœur, il y a un frère plus jeune. Alors, tu vois, elle a 17 et lui doit avoir 14. Mais il y a des gamins de 14 qu'on avait vu, que Neus avait vu. Il a choisi un gamin qui est très proche d'elle. En fait, tu vois, il y avait des gamins du même âge qui semblaient vraiment le petit frère qui pouvait être plus près de son père,
oui.
Avec le même dialogue, avec la même situation, avec tout ça. Mais là, avec lui, en fait, ils étaient presque un pote. Ils étaient très, très proches l'un de l'autre et ça fait qu'entre eux, il y avait une espèce de complicité vraiment dans le tournage. Ils étaient comme deux potes qui étaient en vacances, enfin en vacances, pas vraiment en vacances, mais qui étaient quand même au Sénégal dans un...
Ouais, parce qu'il boude aussi, il va manger dans son coin, il s'isole avec ses jeux vidéo, enfin voilà, il est...
Si, si, il est tout à fait...
Dans son monde, quoi.
Tout à fait dans son monde. Des garçons aussi, hein. Oui. Les garçons, quand ils arrivent là-bas, ils rencontrent un autre garçon qui parle pas sa langue, mais de 14 ans, du ping-pong, ouais, ping-pong. C'est direct, c'est simple, c'est un peu con, et voilà.
Et ce film aussi, dans cet aspect documentaire, c'est aussi le tourisme à l'étranger, des Occidentaux aussi, ça questionne ça, c'est-à-dire arriver dans des clubs où tout est fait pour qu'on soit heureux, où on nous sort, où on n'a pas d'autonomie, ce qui correspond pas très bien à l'adolescente jeune femme, en fait.
Non, mais en fait, c'est marrant parce que c'est un peu l'histoire de Neus, qui a été là-bas, et il était très déçu de ne pas communiquer avec les locaux, de se dire cette idée
c'est
qu'on a...
C'est une cage dorée,
Mais en fait, tous les thèmes que Neus joue, ils sont derrière. Elle n'est jamais explicite, elle ne parle pas directement de... Oui. Il y a plein de sujets, il y a cette idée de... Enfin, plus loin que ça, aussi de la colonisation, oui. Des colonies françaises et tout ça. Et voilà, ça part de son expérience, du fait de se dire que toutes ces gens d'ici, on imagine qu'on arrive là et qu'on est des vrais potes et qu'on a des vraies relations. Mm-hmm. Et c'est ça qu'elle vit Martha dans son voyage, qu'elle dit, mais papa, t'as aucune idée, moi je connais, je croise la ligne, c'est mes potes. Et en fait, tu te rends compte que pour être pote, il faut déjà assumer que tu es peut-être différent, que nous sommes tous différents, et à partir de là, on peut commencer à s'entendre sincèrement.
Le film sort le 17 juillet, ça s'appelle Le Voyage de Martha, réalisé par Neus Balouch, donc, et joué par Elena Andrada et Sergi Lopez, entre autres. Cinéma également pour ce film de François Armanet, film musical et de témoignage autour des filles dans le monde de la musique, ça s'appelle Oh les filles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parmi celles présentes, il y a Jeanne Haddad, il y a Jenny Beth, Lou Doyon qui est notre invité aujourd'hui, Brigitte Fontaine, Charlotte Gainsbourg, Françoise Hardy, Mani, Camélia Jordana, Élie Médéros, Vanessa Paradis. Tout ce beau monde se raconte avec beaucoup d'images d'archives aussi et beaucoup d'illustrations se racontent sur la manière d'appréhender ce métier en tant que fille, en tant que femme, le rock, le travail de création aussi et le travail de l'image. On en a parlé avec Lou Doyon. Lou Doyon qui vient nous présenter à nouveau son album Burn, qui s'appelle Soliloquie, sur lequel il y a Burn.
Once again, it shocks, it stirs you.
I'm getting close enough to feel.
Il y a également Too Much. Contrairement à ce que vous entendez, n'est pas que un instrumental. Il y a également Widows. Mais c'est bien, c'est un teasing comme ça. Vous avez entendu l'intro, maintenant
c'est
vous écoutez.
C'est bien les longues intros, ouais. J'aime bien.
Il y a un pur son aussi, ouais. Puis j'adore la ligne de basse. Et Nothings, on l'a pas encore écouté, Nothings.
Yes, that's what holds it together. Yes, that's what sticks. It's all these things that don't matter, that are the nothings.
Tout à l'heure, ils ont interprété déjà Brother en live. Et revoici donc, accompagné par Nicolas Surchico, Lou Doyon en acoustique avec It's You, nouvel extrait de cet album Soul Liloquy pour la bande originale.
Hard to believe it's still you. I'm talking about, yes, wherever I start, I end up with you. And I know for a fact it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I walk away. It's not you that I'm running from, and just when I think that I'm free, I bump into you. And I wish I could end, 'cause it's all been said. I wish I could end this sick little karma play, 'cause wherever I go, it's with you. And if I ever forget, there's one to talk about you. And whatever they say, and whatever you do, my love will remain exactly the same for you. Yes, right till the end. It's just me and you, hand in hand. Yes, it's just me and you, hand in hand. Yes, it's just me and you, hand in hand. Yes, it's just me.
Avec un extrait de cet album qui s'appelle Soliloquy en tournée. Lou Doyon, merci mille fois d'être venu tous les deux. Merci. Lou Doyon, qui est une preuve, encore une fois, vivante du talent, de la musique, de ses sentiments, dans son écriture, dans son interprétation, dans ce qu'elle porte. Preuve également que l'on peut porter des Birkenstock et être sexy. c'est pas toujours évident, mais on en est la preuve. Et elle sera en tournée. Je le rappelle, notamment, il y a Los Angeles aussi, je l'ai pas dit, tiens.
Là, on part, ouais.
Et ouais.
Los Angeles, San Francisco, New York
et Montréal.
Puis Montréal, Trois-Rivières, Québec, Ottawa.
Et retour après en France.
Et retour pour les festivals d'été.
Parfait. Merci beaucoup, Lou Doyon. Merci, Nicolas. Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Nous avions le talent, la voix, la douceur, l'intelligence de Lou Doyon. Attention! Ah, l'hydrocution, voici Daniel Morin.
Aujourd'hui, les amis, vous l'avez compris, la grosse, grosse actu, c'est bien sûr l'anniversaire de Leïla. Ah, ouais, c'est clair, le reste, on s'en fout. On s'en fout, on a bien raison. Hein, vu ce qu'on s'est mis avant l'émission, on est bien incapable de parler de quoi que ce soit. Je suis même étonné que Leïla arrive encore à articuler. Moi, naïvement, je pensais qu'après 60 moritos, on avait la tête qui tournait, les idées un peu vagues. Mais non.
Ça, c'est toi.
Pas Leïla. Eh non, non. Ça va être les 5 Calva et le Poppers qui l'ont remis les pendules à l'heure. Bon, Fred Sigrist, il a l'air habitué à ce genre de beuverie matinale. À 10h50, il était encore sur le bureau de Nagui, en train de chanter les lacs du Connemara, avec un truc étrange sur la tête. Tout le monde se demandait ce que ça pouvait être. Nagui a dit, c'est le slip de Tanguy Pastureau. Ce qui a créé un climat de gêne général. Comment Nagui sait-il à quoi ressemblent les sous-vêtements de Tanguy Pastureau?
C'est moi qui ai offert.
Puis Tanguy, et Tanguy a mis fin au suspense en déclarant, non, ce n'est pas mon slip. Pour la bonne raison que je ne porte pas de slip. Le slip m'oppresse, le slip me stresse. Je suis psychorigide, tendance impulsive, incontinent. Je ne porte que des couches. Puis il s'est levé, a quitté le bureau comme il fait en fin de chronique. Bref, à 10h50, il est encore total bourré, en train de chanter. Puis à 10h55, et c'est là qu'on trouve toute la force des Antilles. À 10h55, il a vomi dans la poubelle, il a pris un shot de rhum. Ah, et là, il est frais, séduisant.
Ça va mieux.
On dirait Jocelyne Berruard. Il y a du métier, il y a du métier. Sinon, en dehors de l'anniversaire de Léa, là, il y a encore, et jusqu'à dimanche, la canicule qui nous oppresse. Ouais. Bon, hier, j'ai abordé le sujet côté pratique, ou comment pratiquer, justement, profiter de cette vague de chaleur pour protéger ses vieux, ou bien comment s'en débarrasser. Alors aujourd'hui, abordons le sujet tenue vestimentaire au travail, en cas de grosse, grosse chaleur. Alors, il est 12h passées de 27 minutes, moi je suis là depuis, allez, en gros, 6h15. Eh bien, ça fait un peu plus de 6h que j'ai vu des trucs atroce dans les couloirs de France Inter, des trucs que même à 60 degrés, tu ne dois pas avoir le droit de porter. J'ai vu passer du pantacourt, de la sandale allemande. Je suis désolé, mais non, le pantacourt et la Birkenstock, sauf pour le doyon, en cours martial, c'est la peine de mort. Hein. Que tu sois à l'aise, c'est une chose, mais que pour ce faire, tu provoques le dégoût chez les autres, en est une autre. J'ai plus de respect, par contre, pour des tenues plus audacieuses, style le débardeur que portait ce matin un collègue. Débardeur vintage, Mister Camping, la grande mode 2009, avec dessous le micro-short en vert pomme, hein, et les tongs jaunes fluo. Je ne dirais pas qui c'est. Ça n'a pas d'importance et je respecte trop la vie privée des gens pour balancer sans réserve. Mais là, c'est un choix hyper révolutionnaire. Là, tu franchis une étape, tu dépasses le mauvais goût. C'est comme un acte militant vis-à-vis de la chaleur. Tu montres à la canicule que tu restes maître de la situation avec en plus une audace sans limite. C'est un affront des règlements climatiques. Non, vestimentairement, très très fort ce matin, Augustin. Ça va, j'ai pas dit son nom de famille. Augustin, il y en a plein.
Ouais, bon, plein.
J'ai pas vraiment balancé. Sinon, pour en venir au basique en période de canicule, pensez à bien vous hydrater et n'écoutez pas les grincheux qui disent « hydrater oui, mais avec de l'eau ». Non, ça marche aussi avec l'alcool. La preuve ce matin, Leïla, impeccable. Bon anniversaire, ma douce.
Merci,
Daniel.
Merci.
La bande originale. Hydratez-vous avec Nagui.
Surtout.
À la bière.
Merci, Sergi Lopez, d'être venu pour l'anniversaire, pour faire le cadeau.
Ouais, ouais, ouais. Avec grand plaisir.
Quel beau cadeau. On déballe maintenant ou pas?
Oui.
Le voyage de Martha le 17 juillet au cinéma avec Elena Andrada. Et vous serez bientôt dans le prochain Woody Allen, c'est vrai? C'est une info?
Il paraît. Enfin, selon la presse.
Est-ce que vous savez qui c'est?
C'est un monsieur tout petit, oui. Selon la presse de chez moi, j'ai joué. Sergi Lopez protagonise, ça veut dire. Je joue le rôle principal. Bon, je joue 4 jours, 3 scènes dans le prochain film.
C'est bien, c'est bien.
Oui, c'est bien, c'est très très bien. C'est très sympa. J'espère que ça va être très bien.
On vous le souhaite. Avec vous, ça sera forcément bien. Merci, Sergi Lopez.
Merci à vous.
Demain,
bravo.
Sandrine Bonner et Simon Abkarian seront nos invités. Tout de suite, des carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne
oui.
journée, Philippe. Merci.
Et j'ai un cadeau, hein, quand même.
Ah, c'est gentil.
Ah, ben oui.
Oh, merci mon Philippe.
Ma Leïla.
Oh, bien vu. Laissez-nous.
La plus intelligente, la plus gentille, la plus grande. Je suis à tes genoux, même quand je suis debout.
Merci mon Philippe.
Bel anniversaire.
Bien Nagui, on y va. Nous.
Salut les amis.